Balzac. Le médecin de campagne. Chapitre premier. Le pays et l'homme. En 1829, par une jolie matinée de printemps, un homme, âgé d'environ 50 ans, suivait à cheval un chemin montagneux qui mène à un gros bourg situé près de la Grande Chartreuse. Ce bourg est le chef-lieu d'un canton populeux, circonscrit par une longue vallée. Un torrent, à lit pierreux, souvent à sec, alors rempli par la fonte des neiges, arrose cette vallée serrée entre deux montagnes parallèles, que dominent de toutes parts les pics de la Savoie et ceux du Dauphiné. Quoique les paysages, compris entre la chaîne des deux Mauriennes, aient un air de famille, le canton à travers lequel cheminait l'étranger présente des mouvements de terrain et des accidents de lumière qu'on chercherait vainement ailleurs. Tantôt la vallée subitement élargie offre un irrégulier tapis de cette verdure que les constantes irrigations dues aux montagnes entretiennent si fraîche et si douce à l'œil pendant toutes les saisons. Tantôt un moulin à scie montre ses humbles constructions pittoresquement placées, sa provision de longs sapins sans écorce, et son cours d'eau pris au torrent et conduit par les grands tuyaux de bois carrément creusés, d'où s'échappe par les fentes une nappe de filets humides. Ça et là, des chaumières, entourées de jardins pleins d'arbres fruitiers couverts de fleurs, réveillent les idées qu'inspire une misère laborieuse. Plus loin, des maisons à toiture rouge, composées de tuiles plates et rondes, semblables à des écailles de poisson, annonce l'aisance due à de longs travaux. Enfin, au-dessus de chaque porte, se voit le panier suspendu dans lequel sèchent les fromages. Partout les baies, les enclos sont égayés par les vignes mariées, comme en Italie, à de petits ormes, dont le feuillage se donne aux bestiaux. Par un caprice de la nature, les collines sont si rapprochées en quelques endroits qu'il ne se trouve plus ni fabrique, ni champ, ni chaumière. Séparé seulement par le torrent qui rugit dans ses cascades, les deux hautes murailles granitiques s'élèvent, tapissées de sapins à noir feuillage et de hêtres hauts de 100 pieds. Tous droits, tous bizarrement colorés par des taches de mousse, tous divers de feuillage, ces arbres forment de magnifiques colonnades bordées au-dessous et au-dessus du chemin par d'informes haies d'arbousiers, de viornes, de buis, d'épines roses. Les vives senteurs de ces arbustes se mêlaient alors au sauvage parfum de la nature montagnarde, aux pénétrantes odeurs des jeunes pousses du mélèze, des peupliers et des pins gommeux. Quelques nuages couraient parmi les rochers en envoilant, en en découvrant tour à tour, les cimes grisâtres, souvent aussi vaporeuses que les nuées dont les moelleux flocons s'y déchiraient. À tout moment, le pays changeait d'aspect et le ciel de lumière. Les montagnes changeaient de couleur, les versants de nuances, les vallons de forme. Images multipliées que des oppositions inattendues, soit un rayon de soleil à travers les troncs d'arbres, soit une clairière naturelle ou quelques éboulis, rendait délicieuse à voir au milieu du silence, dans la saison où tout est jeune, où le soleil enflamme un ciel pur. Enfin, c'était un beau pays, c'était la France. Homme de haute taille, le voyageur était entièrement vêtu de drap bleu aussi soigneusement brossé que devait l'être chaque matin son cheval au poil lisse, sur lequel il se tenait droit et vissé comme un vieil officier de cavalerie. Si déjà sa cravate noire et ses gants de daim, si les pistolets qui grossissaient ses fontes et le porte-manteau, bien attaché sur la croupe de son cheval, n'eussent indiqué le militaire, sa figure brune, marquée de petites vérolles, mais régulière et empreinte d'une insouciance apparente, ses manières décidées, la sécurité de son regard, le port de sa tête, tout aurait trahi ses habitudes régimentaires, qu'il est impossible aux soldats de jamais dépouiller, même après être rentrés dans la vie domestique. Tout autre se serait émerveillé des beautés de cette nature alpestre, si riante, au lieu où elles se font dans les grands bassins de la France. Mais l'officier, qui sans doute avait parcouru les pays où les armées françaises furent emportées par les guerres impériales, jouissait de ce paysage sans paraître surpris de ces accidents multipliés. L'étonnement est une sensation que Napoléon semble avoir détruite dans l'âme de ses soldats. Aussi, le calme de la figure est-il un signe certain auquel un observateur peut reconnaître les hommes jadis enrégimentés sous les aigles éphémères mais impérissables du grand empereur. Cet homme était en effet un des militaires, maintenant assez rares, que le boulet a respecté, quoiqu'ils aient labouré tous les champs de bataille où commanda Napoléon. Sa vie n'avait rien d'extraordinaire. Il s'était bien battu en simple et loyal soldat, faisant son devoir pendant la nuit aussi bien que pendant le jour, loin comme près du maître, ne donnant pas un coup de sabre inutile et incapable d'en donner un de trop. S'il portait à sa boutonnière la rosette appartenant aux officiers de la Légion d'honneur, c'est qu'après la bataille de la Moskowa, la voix unanime de son régiment l'avait désigné comme le plus digne de la recevoir dans cette grande journée. Du petit nombre de ces hommes froids en apparence, timides, toujours en paix avec eux-mêmes, dont la conscience est humiliée par la seule pensée d'une sollicitation à faire, de quelque nature qu'elle soit, tous ces grades lui furent conférés en vertu des lentes lois de l'ancienneté. Devenu sous-lieutenant en 1802, il se trouvait seulement chef d'escadron en 1829, malgré ses moustaches grises. Mais sa vie était si pure que nul homme de l'armée, fût-il général, ne l'abordait sans éprouver un sentiment de respect involontaire, avantage incontesté que peut-être ses supérieurs ne lui pardonnaient point. En récompense, les simples soldats lui vouaient tous un peu de ce sentiment que les enfants portent à une bonne mère, car pour eux, il savait être à la fois indulgent et sévère. Jadis, soldats comme eux, ils connaissaient les joies malheureuses et les joyeuses misères, les écarts pardonnables ou punissables des soldats qu'il appelait toujours ses enfants, et auxquels il laissait volontiers prendre en campagne des vivres ou des fourrages chez les bourgeois. Quant à son histoire intime, elle était ensevelie dans le plus profond silence. Il n'avait vu le monde qu'à travers la fumée des canons, ou, pendant les moments de paix, si rares, au milieu de la lutte européenne soutenue par l'empereur. S'était-il ou non soucié du mariage? La question restait indécise. Quoique personne ne mît en doute que le commandant Genestas n'eût eu des bonnes fortunes en séjournant de ville en ville, de pays en pays, en assistant aux fêtes données ou reçues par les régiments, cependant, personne n'en avait la moindre certitude. Sans être prude, sans refuser une partie de plaisir, sans froisser les mœurs militaires, il se taisait ou répondait en riant lorsqu'il était questionné sur ses amours. À ces mots, « Et vous, mon commandant ?» adressé par un officier après boire, il répliquait, « Buvons, messieurs !»